pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Francis Poé-Zévarin, conseiller municipal à Puteaux, coordinateur de génération dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir. Alors, mardi soir, le président Macron a donné le calendrier du déconfinement progressif pour les Français, un couvre-feu à partir du 15 décembre. Dès ce samedi, l'ouverture des commerces dits non essentiels, les attestations qui continuent, pas d'ouverture en revanche pour les restaurants avant le début de l'année prochaine, le 20 janvier. Ce calendrier en trois temps a été précisé ensuite par le Premier ministre. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour lutter contre cette épidémie de Covid-19?
Alors je pense que il faut distinguer plusieurs choses. La première, c'est que donner un calendrier à long terme, c'était très important parce que depuis le début de la crise, on a l'impression qu'on est dans la réaction au jour le jour. On apprend trois jours avant qu'il va y avoir un confinement, puis un reconfinement. On a l'impression d'être toujours dans la réaction vraiment en temps court. Donc poser un calendrier, ça me semble chose attendue par tous les Français, surtout avec l'approche de la fin de l'année. Donc là-dessus, c'est l'absolu, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, sur les détails de ce calendrier, on a un certain nombre d'interrogations et qui deviennent des interrogations vitales pour un certain nombre de secteurs. Alors bien sûr, il y a le secteur de la culture, le secteur des bars, des restaurants. Je dirais que le point positif, c'est pour les commerçants qui sont eux également en mode survie et qui vont pouvoir rouvrir à l'approche de Noël. Pour eux, c'est vraiment, ça me semble vraiment une bonne chose. Après, c'est pas le seul secteur qui sont en difficulté. Et là-dessus, le calendrier me semble un peu large et fortement pénalisant.
Alors Francis Poé-Zévarin, cette semaine, les Restos du Cœur ont lancé leur campagne hivernale. L'année 2020 restera comme celle où la pauvreté s'est aggravée. Il y a une image frappante, c'est celle de ces livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui viennent aux distributions alimentaires. La crise sanitaire a révélé une précarité à laquelle on ne prêtait peut-être pas assez attention.
Économique, mais derrière il y a vraiment une crise humaine et la pauvreté avec le cap des 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France qui va être franchi, c'est finalement, on paye à travers cette crise sanitaire, on paye les pots cassés des politiques qui ont pu être menées par depuis des décennies hein, et qui aujourd'hui se retrouvent cristallisées parce qu'il y a un événement ponctuel qui est la crise sanitaire et un événement d'ampleur. Résultat, humainement, ce sont des millions de personnes qui se retrouvent en situation très très compliquée. Pour en revenir à l'exemple précis des livreurs Uber Eats, Deliveroo, de manière générale, l'ubérisation de la société, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, en particulier à Génération, notamment à travers le projet de revenu universel porté par Benoît Hamon. On est sur un système économique qui précarise à tour de bras des pans entiers de l'économie. Aujourd'hui, on a les premières conséquences de cette précarisation qui éclate au grand jour.
L'ubérisation, c'est notamment le fait de transformer des salariés en petites auto-entrepreneurs et avec très peu de garanties sociales dans le cadre de leur métier.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, afin de diminuer les coûts, on supprime toute la protection sociale des personnes qui travaillent pour nous. Alors, c'est plus des employés, mais il n'empêche que c'est un tour de passe-passe. Ça reste quand même des personnes qui travaillent pour telle ou telle société et qui enrichissent telle ou telle société et bien sûr derrière les actionnaires.
Alors le gouvernement a annoncé des aides renforcées pour les travailleurs intermittents, ceux qui enchaînent des CDD. Il y a aussi un volet pour les jeunes à travers le CROUS ou bien la mission locale. Certains pourront recevoir une aide de 500 euros par mois. Un dispositif baptisé « Un jeune, une solution » a été mis en place. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous réclamez spécifiquement un RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans?
Alors nous, la solution qu'on porte, et sur laquelle on trouve des adhérences avec le RSA pour les moins de 25 ans, c'est clairement, et plus que jamais, la solution du revenu universel. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand on avait présenté ça avec Benoît en 2017, on nous avait un peu rionné, je me souviens notamment un certain nombre d'éditorialistes qui rionnaient en disant que c'est pas du tout réaliste. Et aujourd'hui, je crois que c'était la semaine dernière, où notamment Nathalie Saint-Cric, par exemple, est revenue en disant bah, peut-être qu'on est allé un peu vite sur le revenu universel, parce qu'aujourd'hui, clairement, ça permettrait d'éviter qu'une certaine partie de la population, toujours plus grosse, se retrouve dans une situation absolument indigne et soit vraiment dans la survie, finalement. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on porte, cette notion de revenu universel, avec, en première étape, évidemment, l'application aux jeunes qui se retrouvent sans ressources, qui n'ont pas de protection au sortir de leurs études, quand ils se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas avoir d'emploi.
Francis Poézévara, la fin de la semaine a été marquée par la diffusion d'une vidéo qui montre des images de grande violence contre un producteur molesté et victime de propos racistes, violence de la part de policiers. Auparavant, il y a eu ces images de la place de la République où des migrants ont été violemment obligés de quitter les lieux. Quelle est votre réaction à ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler des violences policières ?
Des images qu'on voit circuler, notamment les images de lundi soir sur l'évacuation du camp Place de la République. Faut bien se rendre compte que ce sont des personnes, en plus, dans le cadre de ce camp, qui sont des personnes extrêmement fragilisées déjà, qui viennent d'un camp de réfugiés qui a été évacué, à qui on a promis un hébergement en disant on vous brûle vos tentes, mais on va vous héberger. Et plusieurs jours après, ils se sont toujours à la rue. On a relogé une certaine partie, mais il y en a toujours des centaines qui sont à la rue. Résultat, pourquoi il y a eu ce camp République? C'est parce que ce sont les associations qui sont obligées de faire le travail et qui ne sont pas du tout visibles. On les repousse au-delà du périphérique parce que, comme ça, ça fait plus la une sur les jeux dans les journaux. Et une fois que ces associations-là décident de rendre les choses visibles en faisant en sorte d'installer un camp place de la République, la police intervient immédiatement avec une grande violence pour détruire les tentes, pour pourchasser ces personnes fragilisées déjà à travers les rues de Paris. Mais pas seulement, il y a également des violences contre les journalistes, contre des élus de la République. Il y a des vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, d'élus à la mairie de Paris qui sont interdits par des CRS d'approcher de la mairie. On est sur une situation qui est complètement incroyable. Et c'est rendu d'une violence encore plus forte par le fait que le lendemain de cette intervention plus que musclée de la police, la loi sécuritaire est passée à l'Assemblée comme s'il n'y avait aucun souci. Et ce, alors que le ministre lui-même intervient sur les réseaux sociaux en disant « J'ai vu les images d'hier, on va lancer des enquêtes. » Mais la loi qu'il a passée le lendemain de ces événements va limiter ces images. C'est-à-dire qu'on ne les aura plus, ces images dont pourtant lui se sert pour lancer des enquêtes. Donc là, on est sur une situation complètement ubuesque.
Votre mouvement Génération réclame la démission de Gérald Darmanin. On se rappelle que plusieurs responsables avaient réclamé aussi la démission de Christophe Castaner lors du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un problème de confiance entre les Français et leur police, ou bien c'est davantage une question politique, la manière dont ce gouvernement gère la question du maintien de l'ordre ?
Je pense que c'est essentiellement une vraie question politique. Quand on a des personnes qui se permettent, des forces de l'ordre qui se permettent d'avoir ce genre de comportement, c'est soit qu'elles en ont eu les ordres, dans ces cas-là on est purement sur de la politique, soit que le comportement de manière générale de l'autorité du ministre de l'Intérieur donne le sentiment d'autoriser ce genre de débordement. Et donc la question est politique, et c'est pour ça qu'il faut que M. Darmanin démissionne. On est passé de Christophe Castaner, ne pensait pas pouvoir trouver bien pire sur un gouvernement d'Emmanuel Macron, mais on a, avec Darmanin, on va encore un petit peu plus à droite, on repousse les limites de l'acceptabilité.
La loi sur la sécurité globale que vous avez mentionnée tout à l'heure a donc été adoptée à l'Assemblée. De nouveaux rassemblements ont lieu ce samedi contre ce texte. C'est toute la loi sur la sécurité globale que vous dénoncez ou seulement l'article 24 ?
Non, globalement, l'article 24 est bien sûr, c'est l'exemple même de ce qu'on demande à retirer. Néanmoins, c'est une question globale, je pense, de prise de position politique. On est sur une déshumanisation de la politique de la sécurité en France. Rappelez-vous, en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est élu, il a été élu avec un certain nombre de voix de personnes de gauche en disant « Bon, bien sûr, économiquement, je suis libéral, mais je suis également humaniste. » Et donc ça, c'est des choses qu'on peut partager avec la gauche. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, il a créé son parti, presque parti humaniste. Toutes ses actions, toute sa politique est en train de glisser très clairement sur la droite la plus dure, donc non seulement libérale, mais également la droite sécuritaire la plus dure.
Mais justement, Francis Poézévera, Génération a publié un slogan choc sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, nous n'avons pas fait barrage à l'extrême droite pour subir sa politique. Vous faites une équivalence entre la politique menée par Emmanuel Macron et celle que Marine Le Pen aurait pu conduire si elle avait été élue ?
Alors, une équivalence, non, sans doute pas. Néanmoins, c'est ce que j'indiquais à l'instant, on a vraiment un glissement. Donc, on va retrouver des éléments de politique d'extrême droite, clairement, quand il s'agit de stigmatiser telle ou telle partie de la population. Quand on en arrive à de la violence policière, on retrouve un terreau pour la politique d'extrême droite, pour les idées d'extrême droite. Et c'est ça surtout qui est dangereux. C'est pas tant qu'on a 100% du programme d'extrême droite, c'est qu'à travers les actions, Emmanuel Macron, à travers sa politique, tout comme Nicolas Sarkozy à l'époque, donne du crédit et installe vraiment un terreau pour les idées d'extrême droite. Et à titre personnel, je suis très inquiet pour l'avenir.
Vous êtes très inquiet, vous dites que l'extrême droite est en train de gagner la bataille des idées. Ça veut dire que Marine Le Pen peut être aux portes du pouvoir aujourd'hui, comme certains le redoutent.
Malheureusement, on a de nombreuses personnes qui sont de plus en plus nombreuses. Chaque image qu'on trouvera sur les réseaux sociaux convertit de nouvelles personnes là-dessus, à se dire que si jamais demain, en 2022, on se retrouvait avec le même choix, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, non, on ne voterait plus Emmanuel Macron pour faire barrage. C'est très dangereux et j'espère que côté En Marche et à l'Élysée, on se rend compte un petit peu des effets catastrophiques que peuvent avoir les politiques qui sont menées.
Francis Poézévara, le 9 décembre sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi confortant les principes républicains, un texte destiné à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Après l'assassinat de Samuel Paty ou l'attentat de Nice, ce projet de loi vous paraît-il nécessaire ?
Alors, concernant ce sujet qui se trouvait sous le nouveau nom à l'automne, le séparatisme, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui mérite qu'on le traite avec sérieux. Je pense qu'on peut tous le constater dans notre entourage, la France est vraiment en train de se fracturer. Moi qui suis personnellement fondamentalement républicain, pour moi c'est insupportable de voir la France se fracturer ainsi. On ne peut pas accepter les radicalisations, que ce soit la radicalisation islamiste ou la radicalisation islamophobe. Donc c'est un sujet vraiment sérieux qui devrait être traité avec sérieux. Le souci de la loi qui nous est proposée ici, c'est que c'est une loi qui est discutée et qui est modifiée sous le coup de l'émotion. Et c'est jamais ça qu'on veut quand on parle politique. La politique, c'est s'inscrire dans le temps long. Les lois, c'est des choses qui vont rester gravées pour des années à venir. Donc on ne peut pas être sur la réaction à tel ou tel événement, même si c'est des événements particulièrement atroces, comme ça a pu l'être en France ces dernières semaines. Et de manière générale, la loi, on le sent bien, elle s'inscrit dans le virage très net dont je parlais tout à l'heure, de la ligne du gouvernement qui passe clairement à droite.
Vous redoutez un amalgame entre islam, islamisme, entre les terroristes, les musulmans. Vous redoutez que les musulmans fassent les frais de cette loi ?
Je pense que les musulmans font déjà les frais. C'est plus quelque chose que je redoute, c'est que clairement toutes ces lois, toutes ces interventions, quand je dis que c'est le terreau aux idées d'extrême droite, c'est que elles induisent plus ou moins cette confusion entre l'islamisme radical et les musulmans. Et c'est ça qui est particulièrement insupportable et qui fracture la France.
Alors, vous êtes conseiller municipal dans les Hauts-de-Seine, à Puteaux. Les élections régionales auront lieu en principe l'an prochain, soit en mars comme prévu, soit en juin, comme le réclame Jean-Louis Debré. Est-ce que la gauche doit être unie dans cette bataille des régionales en Île-de-France ?
Alors, je pense qu'on est dans une situation où, de manière générale, la gauche doit être unie. Tout simplement pour tout ce qu'on vient de dire ensemble, c'est la solution, elle ne peut venir que de la gauche, incluant les écologistes, et donc pour cela il faut que la gauche soit unie. C'est vrai en Île-de-France, c'est vrai également, pour encore plus vrai peut-être pour les présidentielles. Et par rapport à ça, bon, malheureusement, je suis plutôt pessimiste sur la capacité de la gauche à s'unir pour prendre le pouvoir et inverser la tendance de ce glissement vers la droite.
Vous pensez qu'il y aura donc plusieurs candidats de gauche et que ça n'est pas gagné pour une alternance en 2022?
Alors, pour 2022, on le voit, il y a de nouveaux candidats à gauche tous les jours. Quand je dis que je suis pessimiste, si on regarde les sondages, il y a de multiples raisons d'être pessimiste. Si on n'est pas unis, on sait que de toute façon, la gauche sera absente du second tour pour la troisième fois de son histoire, ce qui donnerait cet affrontement entre la droite libérale de Mme Macron et la droite nationaliste de Marine Le Pen. Et là, on voit que chacun part dans son couloir. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo qui se prépare, Yannick Jadot, peut-être également ce Roussel côté du Parti communiste. Et ça, c'est doublement pénalisant parce que d'une part, en étant chacun dans son couloir, on n'a aucune chance que quelqu'un arrive à passer la barre du second tour. Mais en plus, parce que pour se différencier, les uns et les autres sont obligés de cliver à gauche. On l'a vu encore récemment avec les propos d'Anne Hidalgo sur Europe Écologie. On le voit régulièrement dans les interventions des uns et des autres. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot qui va plutôt sur le centre. Et en clivant comme ça, on est en train, avec une sorte de prophétie autoréalisatrice, de rendre la gauche, les uns et les autres à gauche, irréconciliables. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde les études relatives à 2022, la gauche divisée pèse en gros 26%, ce qui correspond à la barre pour passer au second tour. Mais si il n'y avait qu'un seul candidat de gauche au premier tour, aujourd'hui, ce candidat ne dépasserait pas 15%. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde clive à gauche et donc les uns et les autres refusent de se porter sur un candidat d'union. Et pour moi, c'en est presque criminel de la gauche, pour la gauche, de faire perdurer ces divisions et de continuer à cliver.
Merci Francis Poé-Zévara. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Puteaux et coordinateur de Génération dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.